Chapitre 16. Claude était assis dans le bureau de M. Simpson, attendant l'éditeur qui lui avait donné rendez-vous. La flamme éclairait son visage soucieux, d'où le joyeux entrain d'autrefois avait disparu. Cependant, le jeune homme luttait vaillamment contre sa peine. Au lieu de la fuir comme le premier jour, il l'avait saisie corps à corps. Parfois il la terrassait, parfois elle était la plus forte et le tenait abattu sous elle. Lorsque par instant il croyait l'avoir vaincu, il regardait autour de lui, devant lui, dans l'avenir, et tout lui semblait vide. Pour qui travailler désormais? Ah, on ne l'y reprendrait pas, à poursuivre une belle chimère insaisissable et moqueuse. Il ne se donnerait plus, pas même à la musique. La musique est femme, comme la fortune, comme la renommée. Quand on leur livre son cœur, elles le caressent d'abord, puis le déchirent. C'est ce qu'Olive avait fait. Mais il n'y voulait plus songer. À quoi bon rouvrir cette porte sombre qu'il avait fermée une fois pour toutes? Claude essayait de réfléchir posément, en homme d'affaires, aux offres de M. Simpson. Elles étaient vagues encore, mais pleines de promesses. « Venez me voir, lui écrivait l'éditeur, nous débattrons les conditions et je ferai mon possible pour que vous soyez content de moi. » « Pardonnez-moi de vous avoir fait attendre, » dit l'éditeur en entrant et en tendant la main à Claude avec une extrême cordialité. « J'avais à terminer une affaire qui pourra vous concerner aussi et dont nous parlerons tout à l'heure. « Eh bien, cher monsieur, vous nous avez donné un croc en jambe. « Je me suis passé de vous pour débuter, si c'est là ce que vous voulez dire, » répondit Claude avec une certaine froideur. « Et vous avez eu 100 fois raison. » Votre coup de cymbale a fait dresser l'oreille au public. Ce n'est pas que votre composition soit sans défaut. Votre musique est jeune, étonnamment jeune. Elle a l'humeur inégale, comme la jeunesse, mais elle plaît, je ne vous le cache pas. Vous êtes trop bon. Venons au fait. Passez les étrennes, M. Truffin ne vendra plus un seul exemplaire de votre valse, je le tiens de lui-même, mais la demande continuera. « Vous concevez qu'il est pénible à un éditeur sérieux d'avoir à répondre « Désolé, chère madame, adressez-vous à M. Truffit, fabricant de brosses électriques. Ça a l'air d'une charge, et moi qui ne plaisante jamais. Je n'ai pas coutume de battre longtemps les buissons. Confiez-moi la seconde édition d'Electric Electrac, je veux dire la première édition régulière et avouable, car enfin c'est prospectus. » Claude rougit. L'éditeur avait touché un point sensible. « Passons aux chiffres, » reprit M. Simpson. « Que diriez-vous de ceci ?» Il lui tendit son carnet. Claude y jeta les yeux avec quelque émotion. Les conditions étaient généreuses, il le reconnut. « Eh bien ?»« J'accepte. C'est le rachat de mon esclavage, » pensa-t-il. « Le bazar pourra chercher un autre pianiste. »« Je ne vous traite pas trop mal, hein ?» fit M. Simpson. « Mais c'est à la condition expresse que vous me donnerez une seconde composition avant la fin de l'hiver. « Demain, si vous voulez, j'ai un tas de petites choses légères qui dorment en portefeuille. » M. Simpson se frotta lentement les mains. « Et dire, pensa-t-il, que c'est moi qui ai inventé ce jeune homme. Il me devra tout, même son début, car je lui ai mis l'éperon dans les reins à notre première entrevue. » Il frappa sur un timbre, glissa 2 mots au domestique, puis se tourna vers Claude. « J'ai autre chose à vous offrir, » fit-il avec un léger accent de triomphe. La porte s'ouvrit. « Monsieur Archibald Tuneless, Monsieur Claude Forest, » dit solennellement l'éditeur. Monsieur Archibald Tuneless, que Claude connaissait de réputation comme compositeur de plusieurs opérettes fort en vogue, portait un monocle qui lui aveuglait un œil et l'obligeait à fermer l'autre. Sa cravate était ornée d'une tête de mort, grosse comme une noisette, avec 2 fémurs en sautoir. Il tenait ses 2 coudes fort éloignés du corps, comme les 2 anses d'une cruche, et allongeait le cou démesurément, si bien que cet organe semblait avoir acquis plusieurs vertèbres supplémentaires. Sa boutonnière était ornée d'une orchidée jaune de 5 shillings. De la racine des cheveux jusqu'au talon, M. Archibald Tuneless était un exemplaire très réussi, de ce type éminemment décoratif et coûteux que l'admiration publique appela successivement Lyon, Dandy, Swell et quel honneur maintenant du nom de mécheur, ce qui veut dire promptement un épateur. Claude considérait ce fascinant jeune homme en se demandant ce qu'il pouvait bien lui vouloir. Charmé, parole, fit languissamment M. Archibald, avec ce bredouillement guttural qui est le dernier fini du mécheur et qui fait croire constamment à un suicidé par strangulation au moyen d'une cravate trop serrée. M. Archibald Thunelès professait un souverain mépris pour les syllabes initiales et les commencements de phrases. Il s'en remettait à la perspicacité de ses interlocuteurs. « Je vous laisse, dit M. Simpson, vous causerez plus librement. »« Ah, mais voyons, pas du tout. Seyez-vous donc, vieux philistin !» M. Simpson fit de son mieux pour paraître charmé de cette appellation, car les opérettes de M. Thunelès étaient pour lui une source de beaux profits. Il s'assit. Son visiteur se jeta dans un fauteuil, croisa les jambes à une hauteur considérable, puis baissa le menton et s'absorba dans la contemplation de son orchidée. « M. Thunelès avait une proposition à vous faire, » dit enfin M. Simpson, voyant que le silence se prolongeait. « Vrai, très vrai, parole. Faitement oublié, » murmura l'illustre compositeur, sans détourner ses regards de la fleur jaune qui semblait l'hypnotiser. « Allez toujours, Simpson, mes amours, direz ça mieux que moi. Déteste les affaires, parole. » Il croisa ses deux bras derrière sa tête, puis éleva son pied gauche à une altitude plus extraordinaire encore et lui donna de petites secousses régulières comme s'il essayait de le détacher de sa personne. « Monsieur Thunelès, commença M. Simpson, tandis qu'un léger sourire flottait sur ses lèvres, passe pour être l'auteur de plusieurs compositions fort goûtées, mais en réalité, il n'en est que le parrain. « Ah, mais voyons !» s'écria M. Archibald en retrouvant quelque vigueur. « Pas ça du tout. C'est moi faire. » Ses jambes reprirent soudain leur position normale. Il se tourna vers Claude. « Le fait est que j'ai tous les dons, parole. Strumentalisation, brio, mouvement, tous les dons, sauf un. La modestie, suggéra Claude. Non, la mélodie. Césaire, vous savez que le public fredonne en quittant la salle. Incapable, mon cher, d'en trouver un. Croyez pas, c'est comme ça, parole. Et pourtant, le public en veut. Monsieur Archibald secoua la tête avec mélancolie et Claude déclara que les exigences du public étaient inconcevables. N'est-ce pas? J'ai là un libretto. Ah, charmant! Ténor, un mécheur, tout à fait mon genre. Fameuse idée, hein? Il aura du succès, dit Claude avec conviction. L'ouverture est faite, ainsi que les chœurs, trois récitatifs, la charpente enfin. Mais il me faut un duo pour le premier acte, une chansonnette gaie pour le second, et une grande polka furieusement dansante pour le dernier, les clous de la pièce. Il faut que le public trépigne. Quand pourrez-vous me livrer ça ? Comment ? Fit Claude qui s'imagina avoir mal compris. J'ai dit à M. Thunelès que vous ne refuseriez peut-être pas de devenir son collaborateur, interposa M. Simpson. Encore faut-il qu'il le demande, dit Claude. Je vous le demande, là ! Fit M. Archibald qui sortait tout à fait de sa langueur. Point sur les i. « Paraphe, rien n'y manque. Quand pourrez-vous me livrer ça ?»« Si la pièce a du succès, » dit M. Simpson, qui paraissait désireux de mener la négociation à bonne fin. « C'est ça, les conditions, » fit M. Thunelès en reprenant son attitude favorite. « Pour mener une affaire, le sage et vertueux Simpson... »« Causez, causez, mes enfants, et repassez quand vous aurez fini. » Il bâilla, prit sur la table un journal de sport et le déploya devant sa figure comme un écran. Claude crut s'apercevoir qu'il le tenait à l'envers et prêtait une oreille attentive au reste de l'entretien. Le contrat fut bientôt conclu. Les deux compositeurs prirent jour pour se rencontrer et parcourir ensemble le libretto. Claude se sentait ahuri. Il avait peine à rassembler ses idées. « C'est Zambali qui va faire une tête !» dit M. Archibald en clignant de l'œil autant que lui permettait son monocle. « Zambali, pourquoi ? fit Claude avec quelque vivacité. Le signor Zambali, répondit l'éditeur, a été jusqu'ici la doublure de M. Thunelès pour la partie mélodique, mais il s'est trouvé l'année dernière que les inspirations flottantes et sans maître étaient rares, et il n'a pas réussi à en attraper une seule. Quel four quand j'y songe ! Murmura M. Archibald avec mélancolie. Cette romance du troisième, exécrable ! On aurait pu la croire de moi, parole ! La conférence terminée, Claude fut heureux de retrouver au milieu du mouvement et du bruit de la rue le sentiment de la réalité. Sa bonne fortune l'étourdissait, il était dans cette première phase où l'étonnement l'emporte sur la joie, où le don qu'on souhaitait si ardemment semble trop grand, trop étrange pour qu'on ose le saisir. En face du but, Claude se raisonnait pour être heureux, il éprouvait ce que tant d'autres ont éprouvé avant lui, le désenchantement et la lassitude qui suivent la tension prolongée de la lutte. La joie viendrait plus tard, sans doute, mais dans ses premiers instants, il ne sentait qu'une chose, l'imperfection de tout ce qui se réalise. Marchant à pas lents, le front baissé, il n'avait pas l'air d'un homme qui vient de remporter le prix. « C'est la vie, » pensa-t-il, se rappelant tout à coup ce que M. Trouffy disait de l'oiseau bleu. « On s'épuise à courir après des récompenses décevantes. Ah, si pourtant Olive avait voulu !» Mais il sentait en même temps qu'Olive, telle qu'il l'avait aimée, n'avait jamais existé que dans ses rêves.